Maintenant que vous avez prié, dites-lui bonjour quand même, hein, parce que sinon, on n'a pas fait les choses dans l'ordre, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est de ma faute, vous dites, c'est le pasteur qui m'a obligé d'être impoli. La semaine dernière, on a commencé une série, Le Saint-Esprit dévoilé. Est-ce que vous avez la bande-annonce? C'est parti. Ça va partir. C'est le premier culte. Commencer avec les connexions du Saint-Esprit. On a vu deux choses la semaine dernière essentielles, la base doctrinale, la base de notre foi. Il y a deux connexions fondamentales. La première connexion, c'est la connexion avec ton cœur. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, on a vu que le Saint-Esprit vient et allume quelque chose en toi. C'est lorsque tu nais de nouveau. Tu nais d'eau et d'esprit, et c'est la première connexion. La deuxième connexion, c'est une connexion qui est non pas différente en nature, mais qui est différente en débit. Et c'était le baptême dans le Saint-Esprit. C'est le fait de recevoir une nouvelle dimension. Vous recevrez sur vous une puissance extrêmement forte, celle du Saint-Esprit, qui vous donnera la capacité d'aller plus loin, plus vite. C'est le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le fait de déborder dans l'esprit. Aujourd'hui, on démarre le deuxième point, les confrontations du Saint-Esprit. Alors, tu dis à ton voisin, les confrontations. Alors, attention, ça va chauffer aujourd'hui. Les confrontations. Vérifiez que c'est quelqu'un de paix qui soit à côté de vous, parce que sinon, ça peut être gênant. Les confrontations du Saint-Esprit. Voilà ce que le Saint-Esprit, il vient en toi parce que tu l'as invité, vrai ou faux? Sauf que une fois qu'il est installé, des fois, il y a une bagarre dans la maison. Et c'est des bagarres dans la maison dont je voudrais parler. Parce que beaucoup de chrétiens se posent plein de questions. Des fois, ils se disent, mais c'est pas possible, mais c'est comme si j'avais un démon à l'intérieur ou quoi. Et des fois, dans la façon dont vous agissez par rapport à certaines de vos addictions, on va parler de choses qui peuvent être par exemple des addictions sexuelles. Vous avez votre corps qui vous dit quelque chose et votre esprit dit autre chose, et puis c'est la bagarre. Lorsque il s'agit de dans l'église ou en dehors de l'église de manifestations démoniaques, des fois on est un peu perdu, on n'arrive pas à comprendre ce que c'est, si c'est du cinéma ou si c'est vraiment spirituel. Aujourd'hui, le programme est le suivant, c'est de distinguer les trois confrontations auxquelles se heurte l'esprit. Quelle confrontation? On lit le verset 23 qui s'affiche sur vos écrans, c'est dans 1 Thessaloniciens, que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est lui qui vous appelle, il est fidèle, et c'est lui qui accomplira tout cela. Et un petit peu plus loin, dans ce... Un autre texte, il est dit, je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit la sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine, c'est ce verset qui m'intéresse, c'est dans Éphésiens 1, 17, qu'il illumine votre intelligence. Et pour ceux qui lisent dans la version seconde, qu'il illumine les yeux de votre cœur. OK. Corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. Et c'est quoi l'arbitre? L'arbitre, c'est le cœur. C'était sur la diapo d'après. L'arbitre, c'est le cœur. Le cœur, ce n'est pas forcément le cœur physique. Hein. Le cœur, c'est... En grec, il est dit... C'est pour ça que c'est traduit dans deux façons différentes. Il y en a un qui a traduit le cœur. La version Semeur dit l'intelligence. Parce que le mot, c'est dianonia en grec. Et c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et en fait, c'est de toute ta dianonia. C'est là où tu réfléchis et là où tu décides. Donc en fait, vous êtes le décideur. Qui décide, c'est l'image d'après, entre le corps, l'âme et l'esprit, c'est à vous de mettre le bonus là où vous le voulez. Votre cerveau décide de suivre l'esprit, ou bien de céder au corps, ou bien de céder à votre âme. Première confrontation entre le corps et l'esprit. Entre le corps et l'esprit. Alors, comme vous, vous êtes parfait et vous n'avez pas de tentation dans votre corps, on va parler de quelqu'un qui, lui, avait des problèmes, c'est l'apôtre Paul. Mais ça ne vous concerne pas parce que vous, vous êtes parfait, parfaite dans votre corps, vous n'avez pas beaucoup de tentations, mais pas de chance pour l'apôtre Paul, lui, il en avait. Alors, il dit, en effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Ce que je déteste, je le fais. Si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et là, il parle bien de dans son corps. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien, ça m'a porté, mais pas l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Et un petit peu plus loin, verset 23, il dit « Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être, dans tout mon corps. Elle combat la loi qu'approuve ma raison. Elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. » Dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort ? L'apôtre Paul a des soucis. L'apôtre Paul était célibataire. Il l'explique, il le dit notamment dans Corinthiens, il dit, il est possible d'être marié, comme fait Pierre, l'apôtre Pierre, Céphas, qui est marié, comme d'autres qui sont mariés dans l'église primitive, mais l'apôtre Paul, lui, avait choisi de ne pas être marié. D'ailleurs, il le conseille, il dit, vu les temps troublés qu'il y a, je vous rappelle qu'on est à l'époque où le fait d'assumer votre foi chrétienne, vous risquez des lapidations, vous risquez des tortures, vous risquez tout ça. Il dit, moi, je vous conseille de ne pas vous marier. Considérant les temps présents, il vaut mieux que chacun reste seul. Ça, c'était ce que l'apôtre Paul conseille lorsqu'il écrit aux Corinthiens. Il dit, attention, moi, je vous donne ce conseil. Ce n'est pas du tout une obligation parce que l'apôtre Pierre, lui, est marié. Mais il dit, mais moi, j'ai choisi de rester célibataire. Peut-être qu'un jour il a été marié, peut-être qu'il est veuf, je ne sais pas, mais en tout cas, quand il écrit Romains, là, il est célibataire. Je dis ça parce que les tentations qui existent pour les personnes célibataires sont aussi très fortes, très fortes. Parce qu'il y a un manque dans le corps. Vous êtes normal. Et l'apôtre Paul avait des pulsions qui étaient normales. C'est absolument normal d'avoir du désir. C'est absolument normal d'être tenté de regarder certaines choses. C'est absolument normal, des fois, de lutter pour se dire « Ah !» Et l'apôtre Paul vivait cela. Et des fois, je pense que ça devait être tellement dur qu'il dit « Mais qui me délivrera de ce corps ?» Il finissait par détester son propre corps parce que, dit « Je vois qu'il y a quelque chose comme une règle, une loi qui est à l'œuvre en moi et qui me pousse à faire le mal. » Et est-ce qu'il arrivait ou pas ? Alors, regardez le verset 8. Le verset 25, il dit « Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. » En résumé, moi-même, je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Normalement, il y avait marqué dans mes notes, il devait dire « Amen » à ce moment-là, mais j'avais fait une erreur dans mes notes. La loi de l'Esprit qui nous donne la vie, qui nous unit en fait à Jésus, nous a libérés de cela. Et il dit un petit peu plus loin, parce que la loi, il parle du fait du texte, hein, de la loi, lorsque je sais que c'est pas bien, était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait, il a envoyé son propre fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs, et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même, mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Mm-hmm. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un combat à l'intérieur. Il y a un combat entre votre corps et votre esprit. Et l'apôtre Paul dit pas que si vous êtes chrétien, c'est toujours l'esprit qui gagne. C'est pas vrai. Il dit, mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ceux qui est conforme à l'esprit. Il y a des jours où l'apôtre Paul avait du mal et son corps prenait le pas et était tenté d'agir d'une façon qui ne soit pas conforme par rapport à son corps. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers. Qu'est-ce qui se passe ? Depuis que tu as demandé à Dieu d'habiter dans ton cœur, il a mis l'esprit à l'intérieur de toi. Ça lutte. Avoir une relation sexuelle hors mariage lorsque l'on n'est pas chrétien, c'est gênant. C'est embêtant parce qu'on a peur des conséquences que ça pourrait avoir ou des critiques par rapport aux familles, etc. Mais certaines personnes ne sont pas du tout gênées dans leur conscience. Ils sont gênés des conséquences, mais se donnent plein d'arguments pour le faire. Par contre, lorsqu'on est chrétien, en plus de cette conscience et puis cette peur des conséquences, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est l'esprit et qui lutte contre ça. Et dit ça, c'est pas bon. Ce que tu fais là n'est pas bien. Et du coup, il y a un combat et chacun tire la corde. Il y a une confrontation entre le corps et l'esprit. Verset 9. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, si le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'Esprit est source de vie parce que vous avez été déclaré juste. Et si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Car si vous vivez à la manière des hommes livrés à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actes que vous accomplissez dans votre cœur, vous vivrez. C'est pas les textes les plus simples aujourd'hui, hein. Mais c'est essentiel. Parce que l'apôtre Paul dit, il y a un combat là. Et c'est à vous de faire l'arbitre et de dire qui vous choisissez. Je ne crois pas qu'un chrétien soit exempt de péché et ne péchera plus jamais, ce n'est pas vrai. Par contre, je crois qu'en tant que chrétien, chaque jour, tu décides où tu donnes l'avantage. Est-ce que tu te mets du côté de l'esprit ? Est-ce que tu te mets du côté du corps ? Tu y choisis. Et il est clair que la force n'est pas dans ta résolution. Ah, ça c'est important. La force, dit l'apôtre Paul, il est dans ce qui nous lie à l'esprit. Si par l'esprit vous faites mourir. Alors, regardez ici. Qu'est-ce que font les religions ? Les religions, quand elles sont obligées de substituer, ils préfèrent mettre des règles plutôt que de mettre l'esprit. Qu'est-ce que ça donne ? Et les chrétiens sont tentés de faire ça. Ils sont tentés de virer le Saint-Esprit et de remplacer le Saint-Esprit par des trucs, des règles, des règlements d'église ou de pasteur qui, si tu fais ça, t'as ça, tac. Et du coup, c'est la règle qui essaye de te garder au lieu que ça soit le Saint-Esprit. Donc, tu essayes de mettre en place une loi suffisamment dure qui te fasse suffisamment peur pour t'empêcher de pécher. Mais ce n'est pas ce que dit. L'apôtre Paul dit, vous ne vous en sortirez pas parce que la loi, les règles que vous vous mettez ne seront jamais suffisantes pour vous amener vers Dieu. Les moines se sont mis dans des monastères. Pourquoi ? C'est pour se préserver, c'est pour ne pas être tenté. Pourquoi ils habitent au mont Athos en Grèce, dans lequel il n'y a rien si ce n'est des chèvres ? Pour être tenté le moins possible. Mais même au mont Athos, il restera des tentations. Parce que votre cerveau continue à tourner. Donc votre corps continuera à avoir des pulsions, même dans un endroit aussi isolé que ça. Et c'est tellement tentant religieusement, dans une église évangélique, de dire « zéro péché, purification totale, etc. » Tu pourras enlever la télé, ça va t'aider. Tu pourras enlever plein de choses. Mais au final, toutes ces règles qui peuvent être bonnes ne pourront jamais remplacer le fait que c'est l'Esprit qui seul peut te lier à Jésus et te protéger et te faire gagner. Et c'est pour ça qu'il est très très important de faire ce que l'apôtre Paul dit. Vous avez l'Esprit à l'intérieur de vous. Utilisez-le. Arrêtez de combattre la chair par la chair. Laissez l'Esprit combattre avec vous. Et ça, ça se décide. Il dit, si vous faites mourir, c'est un acte fort. Il y a un moment où vous dites, cet acte-là, je ne veux pas. Je choisis de ne pas regarder ce film porno parce que je préfère que le Saint-Esprit puisse gagner le combat en cet instant. Ça se joue en quelques secondes. On avait un excellent message du pasteur Eric Sellerier qui nous disait que ça se joue dans les toutes premières secondes. Dès que la tentation arrive, il y a un choix, parce que tout de suite l'esprit alarme et d'un autre côté le corps dit « non, c'est bon ». Donc il y a un moment où c'est un choix et tu fais l'aiguillage. Et quand bien même tu es en situation de péché, comme David qui est en train de pécher avec Bathsheba et ça fait plusieurs mois qu'il est dans cette situation de péché, un jour Nathan vient et il lui dit « voici les lins, tac, le Saint-Esprit t'alarme ». Tu as encore la possibilité de revenir et de dire « Seigneur, rends-moi un esprit bien disposé ». Je suis en train de perdre pied là. Je suis en train de perdre l'esprit. C'est le corps qui est en train de gagner complètement. Le Saint-Esprit est en train de partir là. Deuxième confrontation. Vous êtes là, c'est bon? Deuxième confrontation. Confrontation entre l'esprit et les esprits. Esprit, âme et corps. Il y a trois possibilités de confrontation. La première, entre esprit et l'âme, entre l'esprit et le corps, entre l'esprit et l'esprit. On a vu l'esprit et le corps, on va voir l'esprit contre esprit. Vous avez un esprit ou pas? Oui, rappelez-vous ce texte fondamental. L'esprit de Dieu et notre esprit témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. À partir du moment où vous avez demandé à Dieu de venir dans votre cœur, vous êtes né d'esprit. Le Saint-Esprit est venu à l'intérieur, il a allumé quelque chose. Vous avez l'Esprit de Dieu. Et le grand patron, le Saint-Esprit, vous aide et vous met sous perfusion de Dieu. Et le problème, c'est que des fois, il y a une perfusion du Saint-Esprit, mais il y a aussi... Alors ça, c'est on va voir les esprits qui viennent de Dieu. Acte 2, il ne faut pas que je me perde. Il faut que je reste pédagogique. La lutte entre les esprits, voici quels sont les esprits qui viennent de Dieu. Il y a quoi comme esprit qui vient de Dieu? Il y a le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, il dit, mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Et à propos des anges, vous savez que les anges sont des esprits? Eh oui. Les anges, ce sont des esprits au service de Dieu. Il est dit, ce sont... en effet, que sont les anges des esprits aux diverses fonctions envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter du salut. C'est vrai que souvent on dit, il faut que je combatte les démons. Mais tu te rends compte que tu as aussi des anges qui bossent pour toi. Alors, le combat en face, effectivement, il y a des démons. Et le prince des démons, le plus puissant des esprits du mal, c'est Satan. Donc il y a d'un côté les forces en présence, vous voyez la guerre, vous arrivez à visualiser? D'un côté, il y a le Saint-Esprit de Dieu avec ses anges, et puis il y a une hiérarchie de puissance d'anges, je n'ai pas le temps de développer aujourd'hui, avec certains qui sont archanges, etc., en fonction de la puissance de cet esprit. Puis d'un autre côté, il y a une armée spirituelle diabolique avec le prince des démons. Dans la Bible, il s'appelle aussi Belzébul, c'était comme ça que les Hébreux l'appelaient, que les pharisiens l'appelaient, avec tous ces esprits démoniaques que sont les démons. Et il y a un texte, par exemple, où un homme s'est fait complètement envahir par des démons. On le lit ensemble, c'est la diapo d'après. Quand il fut arrivé de l'autre côté du lac, dans la région de Gadara, deux hommes qui étaient sous l'emprise de démons sortirent des tombeaux et vinrent à sa rencontre. Ils étaient si dangereux que personne n'osait passer par ce chemin. Et voici, ils se mirent à crier. « Que nous veux-tu, fils de Dieu ? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps ?» Bon, déjà, les démons, ils connaissent Dieu, ils tremblent. Or, il y avait, à quelque distance de là, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les démons supplièrent Jésus.
« Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. »
« Allez, leur dit-il. » Et les démons sortirent de ces deux hommes et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, le troupeau s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac. Et toutes les bêtes périrent noyées.
Wow!
Qu'est-ce que sont les démons? Les démons sont des esprits qui rentrent à l'intérieur des êtres vivants. C'est vrai pour des hommes, c'est vrai pour des humains, c'est vrai pour des animaux. Ils ont besoin qu'il y ait la vie. Le démon squatte là où il y a de la vie. Et il vient, il s'installe. Et lorsque une personne est remplie de démons, les démons arrivent à... En fait, c'est l'inverse du fait de recevoir l'Esprit de Dieu. Les démons ont réussi à remplir cette personne. Donc en fait, dans quelqu'un que vous croisez dans la rue, il y a trois possibilités. Ou cette personne a donné son cœur à Dieu et l'Esprit de Dieu est en elle. Ou cette personne n'est ni d'un côté ni de l'autre. Il est juste spirituellement mort. Troisième possibilité, cette personne est sous l'emprise de démons. Et dans ce cas-là, leur esprit a été récupéré et sous contrôle des démons. Et Jésus allait de village en village et il chassait les démons. Il chassait les démons de personnes qui étaient possédées. Alors j'en viens à une question essentielle. Est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé ou démonisé ? Et là, je me bats contre beaucoup de doctrines bizarres. Je vais essayer d'être équilibré et surtout de vous montrer ce que la Bible dit. J'ai lu beaucoup de livres, vous aussi. Vous allez sur Internet, vous avez toutes sortes d'églises qui prêchent toutes sortes de théories. Et des personnes qui vont mal sont friandes d'avoir des solutions, sont friandes de solutions. Si je vais mal, j'ai besoin d'avoir des solutions. Et donc, il est naturel, lorsque l'on est troublé, d'essayer d'aller vers un pasteur ou vers une église ou un truc qui va mettre beaucoup d'emphase sur les démons parce qu'on se dit peut-être il va m'apporter une solution, peut-être que je suis possédé. Alors, regardez ce que dit Romains 8, verset 9. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livré à vous-même puisque vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Et d'ailleurs, il le dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Il y a deux possibilités. Soit vous avez l'Esprit de Dieu, soit vous ne l'avez pas et vous n'êtes pas chrétien. Un petit peu plus loin, verset 14. « Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu, des filles adoptives. » Et c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Et l'Esprit Saint lui-même et notre esprit témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Regardez l'image de cette femme qui a peur. Vous allez me dire « Mais ça arrive !» Alors pasteur, comment vous m'expliquez ? J'entends ce que vous dites. Vous me dites que si on a l'esprit, on ne peut pas avoir de démons. Mais pourquoi alors il y a ça ? Il y a quelque chose qui se passe. Alors peut-être, il y a d'autres qui vont être un petit peu plus filous, ils vont dire, peut-être qu'un chrétien ne peut pas être possédé, mais est-ce qu'il ne peut pas être un peu démonisé, un peu possédé, mais pas complètement possédé. Alors on va voir dans Matthieu 12, 22. On lui amena encore un homme qui était sous l'emprise d'un démon, qui le rendait aveugle et muet. Jésus le guérit, puis l'homme put parler de nouveau et voir. La foule était stupéfaite et disait, cet homme n'est pas le fils de David ? Et les pharisiens, ayant appris ce qu'on disait de lui, déclarèrent, en parlant de Jésus donc, si cet homme chasse les démons, c'est par le pouvoir de Belzébul, le chef des démons. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, un pays déchiré par une guerre civile est dévasté. Est dévasté. Je pense que tous nos frères qui viennent d'Afrique et qui ont vécu une guerre civile peuvent le dire. Est dévasté. Aucune ville, aucune famille divisée ne peut subsister. Si donc Satan se met à chasser Satan, son royaume est divisé contre lui-même, comment alors ce royaume subsistera-t-il ? D'ailleurs, si moi je chasse les démons par Belzébul, qui donc donne à vos disciples le pouvoir de les chasser ? C'est pourquoi ils seront vos juges. Mais si par l'Esprit de Dieu je chasse les démons, alors de toute évidence le royaume de Dieu est venu jusqu'à nous. Mais moi ce qui m'intéresse c'est le verset 29. Est-ce qu'on peut le lire ensemble ? Ou encore, comment quelqu'un peut-il pénétrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas tout d'abord ligoté cet homme fort ? Alors, il pourra piller sa maison. Et ça, c'est très important. Parce que soit vous considérez que l'Esprit Saint n'est pas fort, soit vous considérez... Vous voyez le truc ? Moi, je crois que le Saint-Esprit est plus fort que les démons. Sinon, ça impose un autre problème théologique bien plus grave. Parce que si vous commencez à dire que Satan est plus fort, j'ai un problème. Et c'est très très bien, il explique bien à Jésus. Il leur dit, parce qu'en fait, les pharisiens accusaient Jésus d'être possédé. Vous avez compris l'idée ? Les pharisiens disaient de Jésus, tu es possédé. Tu as un démon en toi. Et là, Jésus va vraiment se fâcher et c'est là où il va parler du blasphème contre le Saint-Esprit. C'est pour ça, méfiez-vous de toutes ces théories bizarres. Parce qu'il va dire, attendez, arrêtez de dire n'importe quoi. Et il en appelle d'ailleurs à leur raison. Il ne leur fait pas une démonstration. Il leur dit, c'est complètement faux ce que vous dites. On ne peut pas être divisé. Le Saint-Esprit, lorsqu'il garde une maison, il la garde bien. Et on ne peut pas rentrer par hasard. Ah, il s'est chopé un petit démon lorsqu'il a fait un voyage. Non, ça, ce n'est pas possible. Mais c'est très important pour vous. Parce que si vous dites, oh, je suis allé sur un site internet, je me suis chopé un démon de pornographie. Attends. C'est un autre problème, on va voir ce qu'il y a derrière. Il y a ton corps qui lutte, d'accord. Mais va pas commencer à me raconter des théories spirituelles qui te permettent de dire, oh, ben, c'est pas de ma faute, c'est un truc qui est passé par là, c'est un petit démon voyageur, il est monté dans le train à la station numéro. Si quelqu'un. Le démon, il peut rentrer. Mais il peut rentrer dans quelle situation ? Si jamais tu le laisses rentrer dans le sens que tu quittes. L'esprit part. Satan et Jésus ne peuvent pas cohabiter au même endroit. C'est explosif, ça. C'est explosif. Et lorsque le Satan essaye de rentrer quelque part, le Saint-Esprit bloque et il ne rentre pas là-dedans. Dans combien de ses disciples Jésus a chassé des démons ? Zéro. Il n'y a aucun disciple à qui Jésus a chassé des démons. Je ne le vois jamais. Par contre, je vois des papas, des mamans qui amènent leur enfant ou qui amènent quelqu'un qui, depuis ce qu'il est petit, etc., il y a un démon qui est rentré dedans. Et ça, c'est vrai, parce que la personne était spirituellement vide et le démon est arrivé. Et même à un autre moment, Jésus dit, attention, quand il y avait des démons, si je les chasse et si vous ne laissez pas le Saint-Esprit rentrer, vous allez en choper sept derrière. Parce que si vous ne remplissez pas le terrain vague, Satan va aller chercher d'autres et va re-remplir. C'est pour ça qu'il est très important que vous ayez donné votre cœur à Dieu, parce que ceux qui sont nés de Dieu sont enfants de Dieu. Le Saint-Esprit habite en vous et c'est votre meilleure protection. Sinon, vous allez commencer à partir dans tous les sens et à vivre des craintes pas possibles. Non, il ne peut pas rentrer. Il faudrait qu'il arrive à forcer votre porte de votre cœur. Et la seule façon pour un démon de rentrer, c'est si le Christ est parti. Si le Saint-Esprit est parti de vous, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse, c'est pourquoi, et c'est après qu'il parle du Saint-Esprit, Jésus dit c'est pourquoi, attention, je vous avertis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Si quelqu'un s'oppose au Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais si quelqu'un s'oppose au Saint-Esprit, il ne recevra pas le pardon, ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. Oh là là, il y en a qui sont en stress là. Quand on lit ça, ils sont stressés. Écoutez bien. Pourquoi Jésus dit ça? Déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Les pharisiens ont traité le Saint-Esprit qui vient de faire le miracle de démon. Ce n'est pas un acte gratuit, ce n'est pas ils ont fait un péché. Non, Jésus dit tous les péchés seront pardonnés. Même le fait de crucifier Jésus, c'est pardonnable. Personne n'a crucifié Jésus, rassurez-moi. À la croix, ceux qui ont crucifié, ceux qui ont frappé, ceux qui ont enfoncé les clous peuvent être pardonnés. Mais qu'est-ce qui est dangereux? C'est le fait de traiter le Saint-Esprit de démon. C'est le fait d'offenser le Saint-Esprit. Pourquoi c'est dangereux? Réfléchissez. Qui c'est qui vous convainc de pécher? Qui c'est qui vous fait prendre conscience que vous avez fait un péché? Le Saint-Esprit. Donc, lorsque vous insultez et que vous frappez le médecin qui va vous opérer, vous allez mourir de votre maladie. Tout simplement. Le Saint-Esprit, c'est celui qui est là pour vous soigner. Et c'est pour ça, si vous flinguez le pompier, personne viendra vous sauver. Il dit, on peut avoir n'importe quel péché, on peut s'en sortir, tout est pardonnable. Mais attention, si vous tuez, si vous allez tellement loin, vous blasphémez, vous blessez tellement le Saint-Esprit, qu'il arrêtera de vous convaincre de péché, de justice et de jugement. Alors qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui a blasphémé contre le Saint-Esprit? Comment on sait si on a blasphémé contre le Saint-Esprit ou pas? Il y en a qui disent, j'espère que je n'ai pas blasphémé. Je vais te dire, il y a zéro chance que tu aies blasphémé contre le Saint-Esprit. Et je vais vous l'expliquer pourquoi. Parce que tant que tu es sensible à ton péché, c'est que le Saint-Esprit est en train de bosser. Est-ce que vous comprenez? Tant que tu culpabilises, c'est qu'il fait son job. Et s'il fait son job, c'est qu'il est là. Ce qui est très dangereux, c'est les pharisiens, voilà pourquoi il dit attention, vous avez franchi un cap qui est très grave. Parce que les pharisiens n'avaient aucun sentiment de mal faire. Ils traitaient le Saint-Esprit de démon et ça ne leur posait aucun problème. Ça veut dire qu'ils étaient devenus complètement indifférent à la culpabilité provoquée par le Saint-Esprit. Donc je peux vous dire, tant que tu es stressé et que tu dis « Seigneur, j'espère que je n'ai pas offensé », etc., tu n'as pas péché contre le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui te fait stresser des fois. Donc c'est bon signe. Donc c'est un péché très particulier, c'est le fait d'insulter le Saint-Esprit à un tel point que du coup, il dit « Bon, j'en ai marre que tu m'agresses, je vais te laisser dans ton péché, je ne vais même pas t'en faire prendre conscience ». Alors, j'arrive à un autre point. Pasteur, un chrétien peut-il être un peu possédé, un peu démonisé? Moi, je dis, la Bible dit non. Alors, mais qu'est-ce que c'est? Parce que l'image d'après, juste après, oui, c'est bon. Juste l'image d'après, encore. Il y a des trucs quand même. J'ai des chrétiens qui viennent me voir. Je fais des entretiens avec vous. Il me dit, pasteur, c'est tellement fort, j'ai l'impression qu'il y a un truc à l'intérieur. Oui, il y a un truc, mais pas à l'intérieur. C'est pas loin. Et c'est très fort. Ephésiens 6, 10. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur, dans sa grande puissance. Revêtez de l'amour de Dieu, de l'armure, pardon, de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il est filou. Si jamais le diable arrive à te faire croire que tu es possédé, tu vas t'auto-détruire. Parce que tu vas commencer à te taper dessus. Tous les démoniaques se tapent dessus. Est-ce que vous avez remarqué? Quand quelqu'un est possédé, il se tape dessus. Et le diable est tellement filou, il va te faire te taper dessus sans que tu sois possédé. Je vais lui faire tellement peur qu'elle va croire que je suis en elle et elle va finir par se détester. Et elle va devenir folle et on l'amènera à l'HP, l'hôpital psychiatrique. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est grave. Mais il dit, il est filou, il est rempli de ruses. Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre des puissances, des autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. Il y a des attaques démoniaques contre les chrétiens. Dans le monde céleste, ils arrivent et ils commencent à harceler Toussaint. Ils harcèlent Frédéric, ils harcèlent Zatou, etc. Vous comprenez l'idée ? Ils vont vous faire devenir chèvre. Si jamais vous ne réalisez pas ce qui se passe, vous pouvez vraiment, ça peut être plus grave. Ça peut être plus grave. C'est pourquoi endosser l'armure de Dieu que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et de tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez des chaussures à vos pieds, la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix en toutes circonstances. Saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre les flèches enflammées du diable. Ça va cartonner, mes amis. Oui, un chrétien reçoit des flèches enflammées, ça je suis d'accord. Mais ça vient de l'extérieur. Prenez le salut pour casque et l'esprit, l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc il y a un moment, le diable va tourner la Bible pour essayer de te tordre la tête. C'est ce qu'il a fait à Jésus. Oui, mais il est écrit. Et Jésus dit, attends, on ne me le fait pas à l'envers. On ne me le fait pas à l'envers. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Oui, mais il est écrit qu'il donnera à ses anges des ordres pour que ton pied n'heurte aucune pierre. Non, attends. Ne me la fais pas à l'envers. Il y a la Bible et je réponds avec la parole de Dieu. La foi, c'est la confiance en Dieu. Donc ce qui va vous sauver lorsque vous allez avoir des attaques démoniaques, c'est la foi. Il est dit le bouclier de la foi. C'est le fait de bien connaître votre Bible. C'est pour ça que si vous avez des théories bizarres, eh ben vous êtes sérieusement en danger. Et en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Et enfin, troisième conseil qu'il donne, c'est chercher la présence de l'Esprit. Et notamment, c'est là où c'est aussi important d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Vous louez Dieu en langue parce que le Saint-Esprit sait comment répondre à toutes ces flèches enflammées du diable. Et ça vous aide. Faut-il chasser les démons ? Oui. Oui, je suis d'accord, il faut chasser les démons. Mais ce qui est bizarre quand même, c'est que certains ne chassent des démons que dans les églises. Et je trouve bizarre que ça soit que dans les églises. Parce que quand Jésus chassait des démons, il allait à Gadara, vous voyez. Il prenait le bateau et en prenant le bateau, ça se passait mal, il y avait une tempête monstrueuse parce que le démon ne voulait pas qu'il arrive jusqu'à lui. Vous vous rappelez de ça ? Et Jésus va dire au vent, sois muselé, démon, sois muselé. J'ai un gars à les sauver derrière. Les vrais démons. Des fois, il faut aller les chercher. Il peut arriver que quelqu'un de démoniaque se présente spontanément à Jésus, mais à chaque fois, ce que j'ai vu, enfin, pas à chaque fois, mais presque tout le temps, c'est quelqu'un qui amène l'autre qui est démoniaque jusqu'à Jésus pour essayer de le sauver. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait ? Est-ce qu'il peut y avoir des personnes remplies de démons dans une église ? Ça peut arriver, mais c'est quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas donné son cœur à Dieu. Donc s'il y a quelqu'un qui est profondément, qui a été touché au niveau de son âme, vous voyez, « Oh Jésus, c'est cool !» Mais qui n'a pas demander au Saint-Esprit de venir en lui, qui ne s'est pas converti complètement, qui est simplement resté au niveau de l'émotion, qui n'est pas descendu au point de dire « Seigneur, viens dans ma vie !» Eh bien, cette personne-là, effectivement, elle peut encore avoir des démons. Mais vous allez me dire, mais pourquoi alors il y a autant, et c'est bizarre, hein, parce que du coup, les églises, des fois, en fonction de l'origine ethnique, il y en a qui ont plus ou moins de puissance. Il faut croire qu'en Haïti et puis en Afrique, il y a beaucoup plus de puissance qu'en France. Il y a du vrai. Parce qu'il y a des fois des personnes qui sont vraiment possédées. Mais il y a aussi du chaud. Et ce qui est très compliqué, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Priez pour avoir le discernement des esprits ». Il y a un mélange. Et Jésus, lorsqu'il a répondu aux pharisiens qui lui disaient « Oui, mais t'es rempli d'un démon », qu'est-ce qu'il leur a donné comme signe que ce n'était pas ça? Il leur a dit « Vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits ». Alors, si quelqu'un est vraiment démoniaque, il portera des fruits de démon. Je veux dire, des fruits, les fruits, ça ne prend pas un jour, ok? Les fruits, ça prend des mois. Quelqu'un qui est démoniaque, c'est quelqu'un qui a une vie de démoniaque dans ses fruits. Maintenant, moi, le chrétien ou la chrétienne qui, le dimanche, me fait une crise de folie, des convulsions ou des cris, et qui, dans sa vie, n'a pas du tout les fruits démoniaques, je me dis, je trouve bizarre. C'est pour ça que j'aime bien connaître les personnes. C'est pour ça que la Bible dit, n'imposez pas les mains vite fait. Parce que vous allez vous faire, si vous ne connaissez pas la personne, vous ne connaissez pas les fruits, il y a des manipulateurs, il y a des personnes psychologiquement fragiles et il y a des vrais possédés là-dedans. Je peux vous dire quelque chose. Honnêtement, ça fait des années que je fais des camps d'ados. Ça fait des années que je prie et que des fois, quand le Saint-Esprit est là, le diable, il essaye de nous, pardonnez-moi l'expression, de nous pourrir la réunion. Et pas forcément avec des vraies possessions. Des fois, tout simplement avec du cirque pour qu'on regarde autre chose qu'à Jésus. Et en plus, vous savez, les hommes ont leur part de faute dans les églises parce que souvent, les hommes sont moins ouverts aux choses de l'esprit que les femmes. C'est vrai. Et honte à nous. Les hommes, souvent, on est durs. On a un cœur dur. Et le Saint-Esprit a beaucoup de mal à nous changer. Mais vous, mesdames, des fois, notamment entre 14 et 18 ans, il y a du cirque. Et moi, j'ai vu de ces adotes qui me faisaient des convulsions et j'ai dit, attends, me le fais pas à l'envers, toi. Toi, tu es juste en manque d'amour. Tu as envie que tout le monde te regarde et tu as envie qu'on prenne soin de toi et tu as besoin d'un gros bisou et d'un câlin, mais me fais pas une histoire du Saint-Esprit là-dedans ou d'une histoire de démon là-dedans. Tu as juste une crise d'ado qui se passe très mal. Vous voyez? Je dis pas qu'il faut tout faire intellectualiser et qu'il peut arriver qu'il y en ait qui soient vraiment. Mais je veux connaître l'arbre à ses fruits. Le démoniaque de Gadara, il était démoniaque le matin, le midi, le soir. Et ça faisait des jours que ça traînait comme ça. Et lui, il faut vraiment y aller, vous voyez. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il y a tout ça? Il est quelle heure là? Il nous reste quelques instants. C'est compliqué aujourd'hui, hein? Mais c'est important. En fait, qu'est-ce que je vous explique? C'est que, dernier point, des fois, ce n'est pas un combat entre les esprits, mais c'est un combat entre l'âme et l'esprit. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui est rempli de crises d'angoisse, qui a vécu des traumatismes. Son âme a été fracturée. Son âme a été déchiré. Est-ce que vous comprenez l'idée? Je parle à tous ceux qui ont vécu des traumas. Des fois, votre corps a pris des coups, mais votre âme, votre psyché en grec, votre siège de vos émotions a été détruite. Et naturellement, lorsque le Saint-Esprit frit quelque chose, ça a des conséquences sur votre corps et ça a des conséquences sur votre âme. Et quelqu'un qui est psychologiquement, c'est-à-dire d'un point de vue âme, fragile, l'âme va prendre le contrôle par moment. Lorsque j'étais à la convention pastorale des Assemblées de Dieu, il y a un an et demi à Montluçon, j'ai appris qu'un de mes amis pasteurs vivait un moment terriblement difficile dans sa vie. Cet homme-là était proche de moi, ça m'a affecté. Okay, en plus, je n'avais pas beaucoup dormi. J'avais été très stressé par ce qui s'était passé. Donc mes émotions étaient déjà à fond. Le soir, j'ai beaucoup trop mangé. Non mais je vous dis ça parce que tout ça, ça joue. La nuit, à 2h du matin, si vous ne me connaissiez pas, vous auriez dit que j'étais démoniaque. Parce que j'ai ma main qui a commencé à faire boum, 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 boum. Et puis après, j'ai commencé à faire ça. Je dis,
J'étais en train de devenir fou, mes amis. Je faisais une crise où j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. J'avais l'impression que les murs se rétrécissaient. J'avais l'impression que mon pouls, il commençait à... Je faisais du 250 km/h. J'avais des sueurs. Et là, je me suis rendu compte. En fait, mon corps et mon âme s'étaient mis d'accord pour me faire du cirque. Et j'avais beaucoup de mal à calmer ça. Mais il y a un verset qui dit « J'impose à mon âme le silence ». Le psalmiste dit des fois « J'impose à mon âme le silence ». Et vous pouvez prendre autorité par l'esprit. Yvan, tu te calmes maintenant. Tu peux réveiller les 5 pasteurs pour qu'ils prient pour toi. Mais tu peux aussi dire « Wow, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de sommeil ». Alors après, le diable, il est filou, hein. Il en rajoute un petit peu. Hein. Je devais avoir quelques petites attaques démoniaques en plus, histoire de bien m'exciter, vous voyez. Mais je n'étais pas possédé. J'étais super mal, j'étais agressé, mon âme était ultra sensible, mon corps était épuisé, mais le Saint-Esprit était toujours à l'intérieur de moi. Oui, mais je ne le ressens plus. Il n'y a que l'âme qui ressent des choses. Le Saint-Esprit, on ne le ressent pas, hein. Tous ceux qui me disent « je veux ressentir », vous voyez, c'est une faute qu'on fait dans nos églises. Nous. On dit « Seigneur, je veux ressentir ta présence ». Je suis désolé, bibliquement, vous ne le trouvez pas, ça. Notre âme, des fois, effectivement, quand la présence de Dieu est là, notre âme sent que l'Esprit est là. Mais c'est quand même subjectif, hein. D'ailleurs, dans une même réunion, des fois, vous allez dire « waouh, c'était génial, il y avait la présence de Dieu », et le voisin va dire « il n'y avait rien du tout, oui ». Et inversement. Donc ça reste très subjectif. Des fois, l'Esprit de Dieu, il est dans un murmure, des fois, il est dans un vent violent. Des fois, il est avec des flammèches qui tombent, des fois, il est juste dans un tout petit bruit en tête à tête. L'Esprit de Dieu, attention, ne confondez pas l'âme et l'esprit. Or, l'âme, elle a toujours envie de reprendre le contrôle. Parce que l'âme, vos émotions reprennent le contrôle. Moi, c'est le jour où on est baptisé dans le Saint-Esprit et qu'on commence à donner 3-4 mots en langue, tout de suite, notre âme dit « Oh, tu dis n'importe quoi, là !» Et elle essaye de faire taire l'esprit. Vous voyez le truc? Donc ceux qui ont une personnalité où votre âme elle est en contrôle, dès que l'esprit va agir un petit peu, toute sécurité, on ferme toutes les portes et tout ça pour être sûr que l'esprit ne fasse pas trop de bruit. Vous voyez, c'est naturel en fait. C'est parce que votre âme prend vite le contrôle. Pourquoi certains sont baptisés dans le Saint-Esprit et ça fait un tout petit bruit? Et pourquoi d'autres, quand ils sont baptisés dans le Saint-Esprit, j'espère qu'il n'y a pas de voisin. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a une âme qui est juste très exubérante et l'autre personne qui est très calme. Laquelle est la plus spirituelle? Aucune des deux, c'est une question d'esprit. Vous ne confondez pas l'âme et l'esprit. Il y a deux âmes différentes et Dieu reste, il aime votre âme. Dieu aime vos émotions. Mais réalisez bien que ce que vous avez vécu et que votre type de personnalité, votre âme, votre psyché, votre psychologie va avoir des conséquences. Et puis, bon, il faut que j'arrête là. Il est temps que j'arrête. Le Christ, Galates 5, nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi, tenez bon, ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. Oui, mes frères, vous êtes appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Et alors il lui dit, car la loi se trouve accomplie tout entière dans l'obéissance à cette seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. C'est si vous vous blessez les uns les autres, si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous détruirez mutuellement. Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Tout le monde voit bien de ce qui procède, ce qui sort de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche. Ça, c'est le corps. Ça, c'est le corps. Mais tout le monde n'a pas de problème avec ça dans la salle. Hein. Par contre, il y en a qui ont des problèmes avec la suite. L'adoration des idoles. Vous savez, l'adoration des idoles, ce n'est pas forcément une idole que vous avez dessinée, une petite une Vierge Marie, je ne sais pas quoi, ou un vieux truc que vous avez gardé de votre religion animiste. Des fois, les idoles, ça peut être votre portefeuille, ça peut être votre BMW, ça peut être, bon, bref, des choses que vous avez mises à la place de Dieu. La magie, les haines, les querelles, les jalousies. Les jalousies, c'est de l'âme. Hein. les accès de colère. Et c'est l'âme qui crie, hein. Ça se verbalise par le corps, mais c'est votre âme qui souffre et qui vide tout, hein. Les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies, les autres choses de ce genre. Je ne peux répéter ce que j'ai déjà déclaré, ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part dans le royaume de Dieu, mais... Alors vous allez dire, oh là là, c'est la cata. Mais oui, c'est la cata, parce que votre âme, naturellement, elle fait ça. Mais, lisez la suite. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ah non, mais attendez, mais ça, ça peut vous aider à savoir si la personne, elle est possédée ou pas, quoi. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, oh c'est bon, hein, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Vous comprenez ça? Ça, c'est le fruit de l'esprit. C'est pour ça que le fruit de l'esprit, c'est des choses qui ont des impacts sur votre âme. Ça veut dire bien que l'esprit et l'âme, ils se tirent la corde aussi. J'ai envie d'être en colère! Esprit, maîtrise de soi. Non, mais il faut que ça sorte! Maîtrise de toi. Tu as une âme qui est naturellement dépressive parce que tu as vécu des traumas. D'accord? Oui, certaines personnes qui ont été victimes d'abus ont des traumas. Et vous aurez peut-être, votre âme, votre psyché, va de temps en temps broyer du noir et vous amener vers la dépression. Mais le fruit de l'esprit, amen, c'est la paix. C'est la joie. Vous ne l'aurez pas tous les jours. Mais je peux vous dire une chose. Tirez la corde côté esprit. Tirez la corde côté esprit. C'est vous qui choisissez. Dans le combat entre le corps et l'esprit, c'est vous qui choisissez. Entre un esprit et un esprit, laissez bosser le Seigneur. Entre l'âme et l'esprit, c'est vous qui choisissez. Parce que le meilleur pour toi, lorsque ton cœur laisse l'esprit se diriger. On va fermer les yeux. Seigneur, vous savez, la parole de Dieu, elle est essentielle. Je pense à vous qui est au culte de 9h, il y a peut-être des personnes qui se demandent « Est-ce que je suis possédé ?» Waouh, 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 waouh. T'inquiète pas, un royaume divisé ne peut pas subsister. Un démon ne peut pas rentrer chez toi comme ça sans avoir lié un homme fort, dit la Bible. Et l'homme fort, c'est le Saint-Esprit. Non, ma sœur. Non, ma sœur. Si jamais tu as effectivement demandé à Dieu de venir dans ton cœur, que tu lui as donné les clés de ta vie. Tu as dit, Seigneur, je me soumets. Ton sang a pardonné mes péchés. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu es né de nouveau. Le Saint-Esprit est locataire permanent chez toi. Par contre, ce que tu as vu, les exorcismes peut-être auxquels tu as participé, t'ont beaucoup troublé et tu as mélangé des fois l'âme et l'esprit. Et tu étais tellement en manque de solutions et tu comprenais tellement pas ce qui se passait chez toi que tu étais prêt, que tu étais prête à aller voir un tel, voir une telle pour essayer qu'il te délivre d'un esprit ou je sais pas quoi. L'Esprit du Seigneur te dit ce qu'il a écrit aux Galates. Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. Tu es libre et tu ne t'en rends même pas compte. Laisse l'Esprit diriger ta conduite. Je demandais à toutes les personnes qui se sont engagées avec Jésus, qui sont nées de nouveau, qui sont nées d'eau par le baptistère un jour, et d'esprit, de se lever à leur place et on va participer au repas du Seigneur et tous ensemble, qu'on soit debout ou qu'on reste assis, prendre ce chant qui dit « Je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être, mon corps, mon âme, mon esprit soit rempli du Saint-Esprit. »
soit rempli. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout
je veux que ma vie soit